Daniel Saada, diplomate, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, diplomate de haut rang et d'expérience, est notre invité à présent. Daniel Saada, merci d'être l'invité de Radio Shalom. C'est au-delà de l'honneur, c'est un grand plaisir de vous recevoir. On vous a vu pendant de longues années à Paris. Bonsoir à vous, Daniel Saada.
Bonsoir Bernard, c'est partagé entièrement ce plaisir.
Daniel Saada, on vit des moments qui sont très très difficiles. Et on imagine que pour tous ceux qui sont à Gaza, c'est encore plus difficile. Quand je dis tous ceux, c'est les otages, les soldats, les Gazaouis. Mais bon, tout le monde s'accorde pour dire que vraiment là, après 2 ans de guerre, c'est particulièrement dur. Et justement, je voudrais faire appel à votre expérience. Vous avez été ambassadeur notamment pendant les années Covid. Et on disait, oh là là, on trouvera pas pire. Est-ce que vous êtes surpris du niveau de difficulté dans lequel est aujourd'hui, dans lequel se situe Israël, auquel est confronté l'État d'Israël et les Juifs à travers le monde? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça a pris une ampleur qui va au-delà de ce que même votre expérience pouvait imaginer?
Oui, je mentirais si je disais que je ne suis pas surpris, et même si c'est le terme surpris qui me gêne. Je suis horrifié, je suis heurté, je suis choqué, je suis inquiet par l'ampleur de la réprobation d'Israël que nous subissons et que nous vivons aujourd'hui. Surpris, je ne le suis pas, parce que je rappelle d'abord que il y a toujours eu des poches importantes d'opposition à Israël, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les politiques en cours, quelles que soient les époques. Je rappelle souvent que même pendant le gouvernement Rabin-Pérez et les années d'Oslo, je me battais avec les journalistes du Monde ou d'autres journaux pour essayer de rétablir la vérité. Donc il y a toujours eu au niveau des relations publiques et au niveau médiatique, il y a toujours eu une très grande difficulté dans la perception de ce qui se passe au Proche-Orient, qui est liée à ce verre grossissant, cette loupe sous laquelle nous nous trouvons en permanence. J'ai commencé ma carrière diplomatique à la fin des années 80, à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, donc il y avait des correspondants permanents dans chaque pays. Et je me souviens qu'il y avait à Jérusalem 385 correspondants permanents de la presse internationale. Et nous nous étions amusés à interroger les grandes capitales pour savoir combien il y en avait d'accrédités. Et je me souviens pas du chiffre exact, mais nous étions de très très loin les premiers. Juste derrière nous, il y avait, je crois, New York avec un peu moins de 200, et ensuite ça décroissait à Paris, Moscou, Pékin, etc. Donc oui, il y a toujours eu un intérêt absolument disproportionné sur ce qui se passe en Israël, et qui explique en partie pourquoi je ne suis pas vraiment surpris. Vous savez, en tant que diplomate israélien, je suis malheureusement habitué à voir le drapeau de mon pays brûlé en place publique. Je l'ai vu à plusieurs reprises à Paris, je l'ai vu à plusieurs reprises lorsque j'étais en poste à Bruxelles, je l'ai vu dans d'autres capitales, sur d'autres continents. J'ai lu des rapports médiatiques, des articles de presse mensongers, terriblement violents contre Israël. Donc tout ça n'est pas nouveau. Mais l'ampleur avec laquelle aujourd'hui la réprobation d'Israël et par conséquence du peuple juif est en train de s'installer dans les opinions occidentales me semble être en effet quelque chose de tout à fait nouveau et d'inquiétant. Alors il y a plusieurs explications à cela, mais vous avez raison de dire qu'il y a là une ampleur sans précédent.
Moi, j'utiliserais peut-être même un autre mot, c'est l'intensité de haine. C'est d'une intensité que moi, j'ai jamais connue, à tel point que je pense que même nos enfants connaîtront ça. Alors, je veux pas faire sombrer tout le monde dans le désespoir, mais je pense que ce ne sera pas réparable en deux ans.
Il y a quelques semaines, j'ai fait une tournée de conférences à Londres, et à l'issue d'une des conférences, un jeune juif qui avait moins de 40 ans est venu me voir avec la gorge serrée pour me faire part de son expérience personnelle. Et il m'a dit qu'il avait 3 enfants qui étaient en primaire. Donc je précise bien en primaire. Donc en primaire en Angleterre, je me suis renseigné, c'est 6-12 ans. Donc il m'a expliqué que ses enfants depuis le 7 octobre étaient tellement harcelés parce que son nom de famille c'est Israël.
Ouf.
Il est obligé de changer son nom. Donc voilà, oui, il y a une intensité, une ampleur, il y a quelque chose d'inédit dont on peut parler, qui s'explique en partie, je pense, essentiellement par l'investissement qui a été fait par notamment les frères musulmans pour investir les sociétés occidentales dans cette idéologie frériste, mais également par la puissance de feu des réseaux sociaux qui dont on n'avait, je crois, pas compris, pas saisi le danger qui à la vitesse de la lumière est capable de dispenser, de répandre un poison dont il a fallu souvent plusieurs siècles pour, quand on parle de l'antijudaïsme chrétien, il a fallu plusieurs siècles de prêches, de catéchisme, d'enseignement du mépris, comme disait Jules Isaac, pour installer, instaurer dans les esprits cet antisémitisme qui a conduit à la Shoah. Eh bien, vous voyez, en quelques années, en quelques mois depuis le 7 octobre, la rapidité des réseaux sociaux, cette puissance exceptionnelle des réseaux sociaux a permis de faire passer ces messages d'un
Alors,
peuple génocidaire, de la famine, etc., etc.
moi je dirais avec dans le prolongement de ce que vous dites, hein, c'est pas en opposition. À mon tour, citer un exemple, on a Elias, un animateur qui est historien, qui est enseignant, qui a une émission chez nous, et il me dit d'histoire. Il me dit Bernard, aujourd'hui, expliquer qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, c'est aussi impossible que d'expliquer que les Juifs n'empoisonne pas les puits au Moyen Âge. C'est personne te croira, personne t'écoutera. Et puisque je parle à un homme dont c'est le métier, ce qui me frappe, et j'aimerais avoir votre avis, c'est la différence de perception des choses, y compris par des jeunes très sincères de partout, hein. C'est-à-dire en Grèce, à Londres, mais et en Israël, ces jeunes qui, à ce point-là, n'ont pas la même vision des choses. C'est-à-dire que quand je vois sur les réseaux sociaux que vous venez de citer à l'instant, la manière dont on présente la situation à Gaza, c'est ce qui est incroyable, c'est à quel point le narratif israélien est totalement inaudible. Par exemple, Amnesty International, qui est supposée être une organisation évidemment militante, mais on imaginait jusqu'à présent sérieuse, Amnesty International qui dit ils détruisent les hôpitaux, comme ça ils sont sûrs que les gens ne peuvent pas se soigner, comme ça participe du génocide. On peut critiquer le fait de tirer sur les hôpitaux, hein, vous savez, c'est permis. Hein. Mais si les Israéliens s'attaquent à ces endroits, c'est parce qu'il y a des gens qui s'y réfugient, des gens du Hamas, etc. Mais ces deux narratifs-là sont.
Vous savez, tout ça n'est pas un hasard, parce que lorsque Amnesty International écrit cela, ce n'est pas un hasard. Ils n'écrivent pas cela simplement pour rajouter de l'huile sur le feu dans la condamnation et la réprobation d'Israël. Tout ça est terriblement bien orchestré, parce que Amnesty International, comme vous l'avez dit, est censé être une organisation sérieuse, une organisation de référence en matière de protection des droits de l'homme. Et lorsqu'il prouve la volonté génocidaire, parce que c'est ça, ce détail qu'ils écrivent, c'est la volonté génocidaire. C'est que pour établir un génocide au point de vue de la définition juridique du droit pénal international, il ne suffit pas de constater l'acte de génocide, il faut aussi le rapprocher d'une volonté génocidaire, donc une volonté génocidaire
Une
exprimée,
intention. Une
voilà, une
intention.
intention génocidaire. Et lorsque Amnesty écrit dans son rapport ce que vous venez de citer, il permet d'alimenter ce que la Cour pénale internationale est en train de faire, à savoir l'accusation, en bonne et due forme, contre Israël de génocide et de crimes de guerre. Tout ça n'est absolument pas, n'est pas un hasard. Je disais tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure l'investissement. Je ne suis pas paranoïaque. Je le précise à ce stade de notre entretien, mais j'ai suffisamment d'expérience pour comprendre comment un véritable engrenage a été mis en place dans lequel pour plusieurs niveaux sont en train de s'écrouler, et nous voyons bien aujourd'hui la mobilisation de toutes ces organisations, notamment le monde des ONG, au profit de l'accusation, des accusations qu'il y a aujourd'hui contre Israël. Donc, ce qui me semble être le plus inquiétant, ce n'est pas l'activité de tous ces activistes, en fin de compte, parce que C'est pas nouveau, hein. Vous savez, je parlais de mes batailles avec le monde, mais j'en ai eu autant avec Amnesty International ou d'autres ONG tout au long de ma carrière. Lorsque j'étais ambassadeur en Afrique, je me souviens de la bataille que je menais avec Médecins Sans Frontières. Lorsque j'organisais des opérations de sauvetage et des opérations médicales israéliennes en Afrique, lorsqu'il y avait un médecin de Médecins Sans Frontières qui se trouvait dans un de ces hôpitaux, il quittait l'hôpital parce qu'il ne voulait pas coopérer avec des médecins de l'entité sioniste. Je l'ai vu de mes propres yeux, y compris après une énorme catastrophe humanitaire dans l'est du Congo, où nous étions les seuls à être venus. Nous étions les seuls, il y avait juste par hasard deux médecins sans frontières qui, de toute façon, nous l'avions appris par la suite, étaient prévus de quitter l'hôpital où nous nous étions rendus. Et ils ont profité du prétexte de la présence d'Israéliens pour partir en laissant une population civile totalement démunie. Donc tout ça n'est pas nouveau pour moi. Mais moi, ce qui me semble inquiétant, c'est la compromission, l'esprit de compromission, l'esprit d'abandon dans lequel les dirigeants occidentaux se trouvent aujourd'hui par rapport à ce péril, à cette menace. Lorsqu'on interroge le président de la République pour savoir s'il y a un génocide à Gaza, plutôt que de s'élever, plutôt que de protester, plutôt que de s'inscrire en faux avec toute l'énergie dont il est capable, il laisse le doute planer en donnant une réponse pratiquement jésuitique, en disant ce n'est pas le rôle d'un président de la République, mais plutôt des historiens de trancher. Non, j'aurais attendu du président Macron qu'il s'inscrive en faux, qu'il proteste contre une telle accusation, en expliquant que oui, la France a la politique qu'elle a et défend les intérêts des populations civiles, qui est tout à l'honneur de la politique française, mais certainement pas prêter le flanc à une accusation aussi démoniaque et aussi ignoble que celle du génocide à Gaza.
Vous avez publié un texte dans Valeurs Actuelles au début du mois, dans lequel vous dites quelque chose que beaucoup ont évoqué et que très peu ont écrit. Si vous dites, Emmanuel Macron, en fait, tente d'apaiser les tensions dans les territoires perdus de la République. Beaucoup se disent, je ne sais pas si vous vous souvenez du débat. Macron, Marine Le Pen, à un moment, il lui dit « Mais vous voulez la guerre civile ou quoi ?» Et beaucoup y ont déjà pensé. Mais très peu l'écrivent ou, j'ai envie de dire, osent l'écrire. C'est que Macron, en fait, c'est pas la politique arabe de la France. C'est que Macron, en France, est inquiet. Et parce qu'il est sous une pression que vous avez commencé un peu à définir en parlant des frères musulmans. C'est qu'il a peur pour la France, pour l'avenir de la France.
Je comprends cette inquiétude, je la partage également. Je constate qu'il y a un péril aujourd'hui dans le monde occidental lié à la présence des communautés arabo-musulmanes, certaines en masse, qui, soutenues par cette campagne frériste d'entrisme des frères musulmans dans la plupart de ces sociétés, des élites de ces sociétés, représentent aujourd'hui un véritable péril. Donc l'inquiétude est tout à fait légitime. Mais dans le texte que vous avez évoqué, je faisais également référence à l'attitude des pays occidentaux par rapport à la montée des périls, et je prenais l'exemple de ce qui s'était passé avant à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Je reste convaincu que face à ce type de péril, les compromissions, je ne parle pas de lâcheté, les compromissions ne servent à rien. Vous savez, nous célébrons le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous célébrons également le 80e anniversaire de la conférence de Potsdam. La conférence de Potsdam, elle avait réuni à quelques jours près, c'était il y a 80 ans, fin juillet, début août 1945, elle avait réuni les alliés pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on allait faire de l'Allemagne nazie. Maintenant que la paix était signée, enfin la reddition de l'Allemagne était signée, comment affronter et la situation? Et c'est là qu'on a mis en place, si je me souviens bien, la politique des 3D. C'était la dénazification, le démembrement et la décentralisation. Donc on avait compris que l'Allemagne avait été un véritable empire qui avait menacé l'Europe, donc on a démembré, Ensuite, on a décentralisé, ce qui était à l'origine de l'État fédéral, parce qu'on avait considéré qu'il fallait essayer d'éviter qu'il puisse y avoir un État uni, un État unitaire central qui soit trop fort. Et puis, le troisième élément, c'était la dénazification. Eh bien, c'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui avec les Palestiniens. Il y a aujourd'hui à Gaza, et c'est un des éléments contre lesquels que je rappelle souvent, la situation du 7 octobre. N'est pas née toute seule. Elle est née parce que depuis 20 ans, le Hamas a transformé Gaza en base terroriste, aux yeux et vues de tous. Vous rappelez mon expérience diplomatique, le nombre de fois où j'ai amené des dossiers au Quai d'Orsay, ou à la cellule diplomatique de l'Élysée, ou à d'autres responsables français lorsque j'étais en poste en France, mais je l'ai fait également dans d'autres pays quand j'étais en poste dans d'autres pays, attestant avec des preuves concrètes de ce que le Hezbollah était en train de faire au sud Liban et de ce que le Hamas était en train de faire dans la bande de Gaza. Ça n'intéressait personne. On aurait pu arrêter. Vous savez, les centaines de kilomètres de tunnels qui se sont construites ne se sont pas faites en un jour. Elles se sont faites graduellement et elles se sont faites grâce à l'argent qui est venu du Qatar, mais aussi à l'argent qui est venu de l'aide occidentale et de l'aide européenne. Nous avons prévenu, nous avons alerté. Pendant 20 ans, ça n'intéressait personne. L'Europe, la France s'est totalement désintéressée en devenant quasiment complice de ces détournements de l'aide qui étaient faites par le Hamas, qui a trouvé d'ailleurs un business extrêmement lucratif pour construire et mettre en place son infrastructure de terreur partout, dans les hôpitaux, dans les écoles, les universités, les immeubles d'habitation, etc., etc. Donc tout cela était connu. On s'est tu. C'était le silence le plus total, la complicité la plus totale. Donc aujourd'hui, lorsque nous trouverons la solution, je suis sûr que nous allons en parler dans quelques instants, lorsque la guerre se terminera, je crois que nous sommes exactement dans la même situation que celle de l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas envisager d'avenir pour les Palestiniens s'il n'y a pas une prise en charge de la déradicalisation de ces populations, exactement comme on a investi et mis en place un véritable programme de dénazification de l'Allemagne. Il n'y aura pas d'avenir possible avec les Palestiniens, pour eux-mêmes et évidemment pour nous, s'il n'y a pas de telles mesures qui sont prises en charge.
Daniel Saada, on était arrivé aussi en Israël à un point où on disait, de toute façon, on peut vivre avec la guerre. Moi, je l'ai entendu 1000 fois. Et il n'y a pas d'autre choix. Donc, Israël doit apprendre à vivre avec la guerre. Est-ce qu'on n'est pas aussi en ce moment en train de réaliser, mais je dis ça dans le prolongement de ce que vous venez de nous dire à l'instant, est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser que cette idée était une idée fausse? J'ai même entendu des gens, j'ai même lu des livres, disant la guerre est finie. J'ai vu Benjamin Netanyahou passer, être devant l'ONU et dire War is over. Mais voilà, on doit bien constater que ça aussi, c'était une idée fausse.
Je crois que nous n'avons jamais connu un véritable jour de paix ou de sérénité depuis la création de l'État. Donc j'imagine que cette formule selon laquelle nous sommes habitués à vivre en guerre se réfère essentiellement à cette réalité dans laquelle nous vivons depuis le premier jour. Mais je crois que ce qui compte, ce n'est pas de constater qu'il n'y a pas de sérénité ou qu'il n'y a pas eu de véritable paix depuis le premier jour de notre existence. Je crois que ce qui compte, c'est de regarder. Je m'excuse de cette comparaison très facile, de regarder le verre à demi plein. Qu'avons-nous réalisé en 77 et quelques années? Qu'avons-nous réalisé en interne et qu'avons-nous réalisé au plan régional et international? C'est ça le plus important. Alors oui, nous affrontons une situation sécuritaire permanente avec une menace existentielle qui n'a jamais cessé. Nous sommes le seul pays, je l'ai répété tout au long de ma carrière, nous sommes le seul pays membre des Nations Unies à être menacés en permanence par d'autres pays membres des Nations Unies, en l'occurrence, je pense ici évidemment à l'Iran, menacé de disparition et d'extermination. Mais cela ne nous a pas empêchés de construire, d'œuvrer, de travailler, de nous développer, de porter le plus haut possible les valeurs que nous prétendons défendre. C'est ça le plus important de mon point de vue. Alors oui, on est capable de vivre avec cette situation, même si nous remportons des succès, y compris militaires et y compris stratégiques, sur ces fronts auxquels nous devons faire face. Regardez, depuis le 7 octobre, la situation est totalement différente de celle qui était en vigueur à la veille du 7 octobre. Regardez le Hezbollah, le Liban est en train de se... Alors le terme n'existe pas, de se désespolaliciser. Le Hezbollah est en train de perdre totalement sa puissance militaire, stratégique, mais également même politique au sein du Liban. Je crois que nous avons réussi avec l'opération que nous avons menée au début de l'année, nous avons réussi à porter un coup fatal à l'infrastructure stratégique et terroriste du Hezbollah. Nous l'avons porté ce coup au-delà des frontières du Liban, y compris en Syrie, qui a provoqué la chute du régime de Bachar el-Assad et qui a permis de désiraniser la Syrie et de faire perdre en fin de compte à tous ceux qui étaient les soutiens de l'Iran dans cette région, à leur faire perdre totalement leur repère. Nous avons, vous savez, lorsqu'il y a eu la seconde intifada, en quelques jours, la plupart des pays arabes avec lesquels nous avions établi des relations ou signé des accords à la faveur des accords d'Oslo, donc à partir de 1994-95, donc en septembre 2000, tout a volé en éclats. Le Maroc a fermé notre bureau et a rompu les relations, la Tunisie l'a fait,
Le Qatar, le
le
Qatar,
sultanat d'Oman, pardon,
le Qatar.
le Qatar avec où nous étions présents, etc., etc. Bon. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que nous sommes en guerre sur 7 fronts, y compris avec les Palestiniens, notamment avec le Hamas, dans une guerre, on l'a dit au début de notre conversation, la plus décriée, la plus critiquée, la plus difficile que nous connaissons. Et tout se passe bien dans les pays avec lesquels nous avons conclu ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Tout se passe bien. Le Maroc n'a pas rompu ses relations, Bahreïn non plus, les Émirats arabes unis, la coopération ne cesse de se renforcer. Alors il n'y a pas d'accord officiel, il n'y a pas de liaison officielle, il n'y a pas de relations officielles, mais nous dialoguons avec les autres pays du Golfe, y compris le plus grand d'entre eux, l'Arabie Saoudite. Et évidemment, je ne parle pas de nos pays voisins avec lesquels nous avons établi des relations depuis maintenant plusieurs décennies, l'Égypte et la Jordanie. Donc cela montre bien que cette situation de guerre permanente dans laquelle nous nous trouvons est un fait, mais elle ne nous empêche pas de remporter des succès sur tous les plans. Et c'est ça ce qui compte, me semble-t-il.
Eh bien, ce sera un très beau mot de conclusion pour notre conversation. Daniel Saada, vous qui avez été ambassadeur d'Israël en France, merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci Bernard.